Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil. Ça rappelle des souvenirs à quelques-uns ? Non. Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Qui a écrit ce poème ? Ronsard, ah, quand même, bravo. Dans ce célèbre, assez célèbre poème de Ronsard, un jeune homme, Ronsard c'est lui, un jeune homme suggère à une jeune femme, qu'il trouve sans doute charmante, de profiter de sa jeunesse, puisqu'un jour elle ne sera plus jeune, et sa beauté se fanera comme une fleur. En voilà un qui savait parler aux femmes. Alors au-delà d'un poème amoureux, l'idée qu'il faut profiter de sa jeunesse, pendant qu'on le peut, est très présente depuis des siècles dans de nombreuses traditions qui traversent les lieux et les âges. Et notamment, on cite souvent l'expression « carpe diem » qui veut dire en latin « cueille le jour ». L'idée, c'est de saisir le jour présent. Ça nous vient d'un poème d'Horace, 1er siècle avant Jésus-Christ. Et puis cette expression, elle a été repopularisée par le film « Le cercle des poètes disparus » qui est sorti il y a un certain temps. Alors en lisant ou en écoutant ce chapitre 12 de l'Ecclésiaste, la question surgit, est-ce que notre philosophe, l'Ecclésiaste, également appelé Coëlette, nous propose ici une forme de carpe diem ? Et donc on va lire le texte pour essayer de voir si notre philosophe, l'Ecclésiaste, nous transmet ici, c'est une forme de carpe diem. Et je vous soumets que la réponse c'est oui. L'auteur va nous inviter à saisir l'instant présent et même à saisir le temps de la jeunesse. Et pourtant, son carpe diem comporte des différences essentielles avec celui qui est très en vogue aujourd'hui. Donc avant d'aller plus loin, je vous propose de lire le texte qui se trouve à la page 647 des Bibles bleues qui sont devant vous. Donc livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12. « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que viennent les jours du malheur et qu'arrivent les années dont tu diras « Je n'y trouve aucun plaisir. » Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie. Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent, les meunières trop peu nombreuses cessent de moudre. Celles qui regardent par les fenêtres sont dans l'obscurité. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que baisse le bruit de la meule. On se lève au chant de l'oiseau. Toutes les chanteuses s'affaiblissent. On a peur de ce qui est élevé. Il y a des terreurs en chemin. L'amandier fleurit. Le criquet devient pesant. La capre n'a plus d'effet. Car l'être humain s'en va vers ce qui sera pour toujours sa demeure. Et le cortège de lamentation passe dans la rue, avant que le cordon d'argent se détache, que le réservoir d'or se casse, que la jarre se brise à la fontaine, que la poulie se casse et tombe dans la citerne, avant que la poussière retourne à la terre selon ce qu'elle était et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Futilité complète, dit Coëlette. Tout n'est que futilité. Outre que Coëlette fut un sage, il a encore appris la connaissance au peuple. Il a pesé, examiné à fond et mis en ordre un grand nombre de maximes. Coëlette s'est efforcé de trouver des paroles qui plaisent. Elles ont été écrites exactement. Ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les auteurs de recueils sont comme des clous plantés. C'est le don d'un seul berger. Quant au reste, mon fils tire-en instruction. À faire un grand nombre de livres, il n'y aurait pas de fin. Et beaucoup d'études est une fatigue pour la chair. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'humain. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement pour tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Est-ce que l'Ecclésiaste nous donne ici une philosophie du carpe diem ? Saisis le jour. Je l'ai déjà dit, je crois que la réponse est oui. Mais un carpe diem qu'il va bien falloir comprendre. Et je vous propose d'examiner deux idées majeures dans ce texte. D'abord, saisir la jeunesse avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, saisir la sagesse avant qu'il ne soit trop tard. saisir la jeunesse avant qu'il ne soit trop tard. Il y a quelque temps, j'ai vu un ami de longue date que je connais depuis le lycée. On s'est retrouvés, on a parlé, on a échangé des nouvelles. Et après donc, ce temps d'échange, on s'est mis à parler des chansons des années 90 qu'on écoutait à l'époque. Et à un moment, pendant la discussion, je me suis dit « aïe, ça y est, ça commence ». La nostalgie commence. En plus, j'ai remarqué que, tout d'un coup, j'ai remarqué qu'on était assis sur un banc. Et là, j'ai eu très peur. Je me suis dit, il manque plus que la canne. Les deux qui reparlent de leur jeunesse, etc. Alors, plaisanterie à part, il faut reconnaître que le thème du temps qui passe, c'est quelque chose qui travaille l'homme depuis toujours. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, à beaucoup d'époques. L'idée selon laquelle il faut saisir la jeunesse, elle est très présente également dans notre culture contemporaine. Le message qu'on entend très fréquemment est à peu près celui-ci. Avant de devoir te fixer dans une carrière, voyage, parcours le monde. Avant d'avoir un conjoint, aie des aventures sur le plan sentimental, sexuel. Avant d'avoir des enfants, sors, fais la fête. Parce qu'ensuite les choses vont changer. Tu ne pourras plus faire tout ça. Et on va voir que le message de l'Ecclésiaste, il est très différent de ce carpe diem tellement répandu aujourd'hui. Mais étonnamment, il y a quand même certains points communs. Il y a quand même certains points communs. Parce que nous dit l'Ecclésiaste au verset 1 ? Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Alors vous me direz peut-être, jusque-là, on n'est pas trop surpris. On imagine peut-être un homme d'un certain âge qui a beaucoup vécu et qui sermonne un peu des jeunes en leur disant « Hé, les jeunes, arrêtez de profiter et posez-vous plutôt la question, et Dieu dans tout ça ?» Mais une fois de plus, notre ami Kohelet nous surprend. Pourquoi est-ce qu'il faut se souvenir de son Créateur pendant sa jeunesse, d'après le texte ? Parce que la jeunesse ne dure pas si longtemps, et donc il faut en profiter. Il faut profiter de sa jeunesse pour se souvenir du Créateur. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'on attend. Le cliché, veut que quand on est jeune, on ne se pose pas trop de questions. On profite, on vit la vie à fond au quotidien. Et puis, quand on est plus âgé, c'est là qu'on va se poser les questions sérieuses, les questions existentielles, éventuellement penser à Dieu. Alors, on a déjà vu, on va revoir que l'Ecclésiaste n'est pas contre le fait de profiter de l'instant, de profiter de la vie, même des plaisirs de la vie. Il en parle souvent d'ailleurs dans son livre. Mais il semble bien nous dire ici qu'il faut profiter d'être jeune pour se souvenir du Créateur. Alors on va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'il veut dire par là. Mais d'abord, je vous propose de constater le tableau assez sombre qu'il dresse au verset suivant. Alors, à la fin du verset 1, il parle des années de malheur. Je vous propose de suivre avec moi, parce qu'on va parler un petit peu verset par verset. Il parle des années de malheur à la fin du verset 1. Puis au verset 2, il nous donne l'image du temps qui se gâte. Et on comprend, hein, en lisant, on comprend dans le contexte que c'est déjà l'idée de la vieillesse qui est introduite ici. Et à partir du verset 3, l'auteur, de manière très frappante, et on peut ne pas le voir à première lecture, mais c'est assez clair en fait quand on approfondit, l'auteur nous donne une série d'images qui évoquent symboliquement le vieillissement physique. Et vous allez voir qu'il n'y va pas par quatre chemins. Verset 3, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent. La plupart des commentateurs voient ici une image des bras et des mains qui tremblent, les gardiens de la maison, et des jambes qui se courbent. Et puis les meunières trop peu nombreuses qui cessent de moudre, semble-t-il une référence aux dents, de moins en moins nombreuses, qui ne peuvent plus faire leur travail. Celles qui regardent par les fenêtres semblent être une référence aux yeux, qui voient de moins en moins la lumière. Les deux battants de la porte seraient les lèvres, et la meule dont le bruit baisse représenterait la langue. Autrement dit, on parle de moins en moins. On se lève au chant de l'oiseau, verset 4. Le sommeil, alors là, comment comprendre exactement cette image ? Le sommeil est de plus en plus léger, peut-être. On se lève aux aurores, ou bien un rien nous réveille. Toutes les chanteuses s'affaiblissent. Vraisemblablement, une référence à l'ouïe qui baisse. On a peur de ce qui est élevé. Il y a des terreurs en chemin. On a le vertige. Tout parcours devient difficile. Toute chute devient plus dangereuse. L'amandier fleurit. D'après la plupart des commentateurs, c'est une image des cheveux qui deviennent blancs. Le criquet devient pesant. Là, ils sont moins sûrs. Peut-être une allusion à la démarche lente et pénible de cet animal. La capre n'a plus d'effet. Sans doute le goût qui qui décline. Et au-delà de la vieillesse, c'est bien à la mort que pense l'auteur, fin du verset 5. L'être humain s'en va vers ce qui sera pour toujours sa demeure, et le cortège de lamentations passe dans la rue. L'image, bien sûr, d'une procession funéraire. Les images du verset 6 également, avec l'image d'une cassure, le réservoir qui se casse, la jarre qui se brise, évoque la mort. Et puis, au verset 7, l'auteur reprend le langage du livre de la Genèse, Clifford a déjà cité un peu plus tôt, pour nous rappeler que l'homme était poussière et redevient poussière, que ce souffle de vie que Dieu lui a donné doit un jour être rendu. Et puis, un peu comme bouquet final, verset 8, futilité complète. Tout n'est que futilité. Pour ceux qui étaient là les dernières semaines, on a vu que c'est un des refrains qui revient dans ce livre. Comme on l'a vu les semaines précédentes, quand l'Ecclésiaste dit « futilité, toutes les futilités », on voit en fait, en lisant son livre dans l'ensemble, qu'il ne veut pas dire que tout dans la vie humaine est absolument absurde, dans tous les sens et dans l'absolu. Mais plutôt que la vie humaine en tant que telle, que dans la vie humaine en tant que telle, rien ne dure. Tout est fragile. Et que la mort vient réduire à néant même les plus belles aspirations des hommes. Donc, que fait l'Ecclésiaste dans cette section un peu étonnante? Eh bien, il prévient les jeunes. Il y en a pas mal parmi nous ce soir. Prévient les jeunes qui ne resteront pas toujours jeunes. Le vieillissement les attend. Et un jour, la mort sera elle aussi au rendez-vous. Alors, c'est pas très gai tout ça, mais c'est un peu le style de l'Ecclésiaste. Et en même temps, on voit la profondeur de sa réflexion. Et on va voir, comme on l'a déjà vu, que tout n'est pas aussi noir pour lui. Tout n'est pas aussi sombre que cela. Donc, Coëlette, l'Ecclésiaste nous dit qu'il faut profiter de la jeunesse parce qu'on ne sera pas toujours jeune. Mais en profiter, pour faire quoi? Et le verset 1 nous donne cette réponse à laquelle on ne s'attend pas. Souviens-toi de ton Créateur. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste veut nous dire ici? Je crois qu'il veut nous dire que lorsqu'on est dans l'énergie, la force, les rêves de la jeunesse, il n'y a rien de plus important que de savoir qu'on a un Créateur qui est à l'origine de notre vie, qui nous connaît parfaitement, qui nous invite à le connaître. Si l'essentiel de la vie, ce sont les voyages, les fêtes, le sport, le sexe peut-être, alors c'est sûr que, bah oui, il faut se dépêcher de vivre tout ça au maximum tant qu'on le peut. Mais si l'essentiel de la vie, c'est de connaître Dieu, alors il n'y a pas de meilleur moment que la jeunesse pour le rencontrer et pour vivre pour lui et avec lui. Et là, on prend conscience du grand renversement qu'a opéré notre civilisation. Parce qu'encore une fois, l'idée qui circule, c'est que quand on est jeune, il ne faut pas trop réfléchir. À trop réfléchir, à trop se prendre la tête ou à être trop sage, entre guillemets, on gâche sa jeunesse finalement. Mais Coëlette nous dit que c'est en ignorant Dieu qu'on gâche sa jeunesse. Et si nous avons bien un Créateur en qui se trouve, par définition, si c'est notre Créateur, en qui se trouve l'origine même et le sens de notre vie, alors c'est maintenant qu'il faut le connaître, c'est pas plus tard. Il serait dramatique de gâcher sa jeunesse dans la futilité d'une vie vécue sans Dieu. C'est l'ennemi spirituel, Satan, qui veut nous faire croire que vivre pour Dieu, c'est pénible et ennuyeux. Mais la Bible nous dit tout le contraire. Et d'ailleurs, l'Ecclésiaste nous a dit déjà plusieurs fois que Dieu n'est pas contre les plaisirs de la vie présente, bien au contraire. Je cite quelques, et on pourrait en citer bien d'autres, quelques paroles qu'on trouve dans ce livre de l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de bon pour l'être humain sous le soleil, sinon de manger, de boire et de se réjouir. Chapitre 8, verset 15. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Chapitre 9, verset 9. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Chapitre 9, verset 10. Donc si tu es jeune, Dieu ne te demande pas de renoncer à la joie, de renoncer à tout ce qui peut motiver, à l'ambition même. Mais il nous invite à désirer un plaisir bien plus grand que les médiocres divertissements que nous propose notre monde. C'est comme si l'Ecclésiaste nous disait « Tu rêves d'absolu ? Apprends à connaître le Dieu qui dépasse infiniment tout ce que nous pouvons imaginer. Tu as de grandes ambitions ? Saisis la mission dangereuse mais magnifique que Jésus offre à ses disciples. Ce n'est pas l'Ecclésiaste qui dit ça, mais c'est, je crois, ce qu'on peut dire à la lumière aussi de ce texte. La mission, cette mission que Jésus nous confie, c'est de conquérir le monde, non pas par les armes, mais avec une bonne nouvelle qui change la vie. Tu rêves d'amour ? Laisse-toi entraîner dans l'amour le plus profond, le plus captivant, le plus transformateur qui soit, celui que Dieu nous offre. Pourquoi attendre d'être plus âgé pour vivre ce qu'il y a de plus beau et de plus fort à vivre ? Alors si vous êtes là ce soir et que vous n'êtes pas si jeune que cela, il n'est évidemment pas trop tard pour changer de vie et se tourner vers Dieu si vous ne l'avez pas encore fait. Et on pourrait citer bien des exemples dans la Bible et en dehors de personnes qui ont connu tardivement la joie d'une vie nouvelle avec Dieu. Mais ce que l'Ecclésiaste nous dit ici tout simplement, c'est que puisque la vie avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qu'il y a de plus fort, alors il serait triste de gâcher sa jeunesse à l'ignorer. Il y a une autre raison pour laquelle les jeunes sont invités à saisir dès maintenant la vie avec Dieu, c'est parce que les choix qu'on opère dans sa jeunesse ont généralement un impact décisif sur le reste de sa vie. Et ça nous amène à notre second point, saisir la sagesse avant qu'il ne soit trop tard. Alors si vous n'êtes pas si jeune que cela, vous vous dites peut-être que c'est un message un peu déprimant entre la description effrayante des versets 2 à 7 et l'idée que la jeunesse, dans un sens, c'est le meilleur âge pour connaître et servir Dieu. Il ne reste plus qu'à aller prendre une tisane pour se consoler. Est-ce que c'est ça que l'Ecclésiaste veut nous faire comprendre ? Alors il faut d'abord prendre conscience, je crois, c'est important de le faire, que l'Ecclésiaste c'est avant tout un poète inspiré par Dieu, c'est vrai, inspiré de Dieu, mais un poète. Il n'écrit pas ici un traité de doctrine, il n'écrit pas une thèse d'anthropologie, il exprime des réflexions, il exprime des émotions, il le fait à l'aide d'images, de figures de style, il n'hésite pas à forcer le trait pour communiquer ce qu'il veut communiquer. On va voir tout à l'heure qu'il a aussi des choses positives à dire sur l'expérience et implicitement sur l'âge. Mais donc d'abord, bien se rappeler quand on lit ce livre que c'est avant tout un livre poétique, même si ce sont des choses, des vérités qui y sont exprimées. Et cette distinction entre registre poétique, j'hésite après à utiliser cet exemple, mais on l'a fait rapidement, on l'a fait très naturellement dans la vie courante. Alors par exemple, alors je ne pense pas que poésie soit le bon mot, mais quand Johnny Hallyday chante « Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé », il ne nous invite pas à prendre ces mots au pied de la lettre. Et on le comprend tout de suite. C'est une façon de parler. Il exprime des émotions. Il ne nous invite pas à réfléchir sur le rapport réel entre le soleil et l'oreiller, le champ de blé, etc. Même chose pour l'Ecclésiaste. Il souligne des paradoxes, des observations. Il met le doigt sur des choses qui sont vraies et en même temps qui nous échappent. Et justement, l'Ecclésiaste affectionne ces paradoxes de la vie. Il nous dit que le travail et même l'ambition, c'est une bonne chose, par exemple. Et c'est vrai. Et on le constate, le travail est une bonne chose. L'ambition, une bonne chose. Et en même temps, il nous dit que l'efficacité du travail est éphémère et que le travail qu'on fait sera vite oublié. C'est vrai aussi. Il nous dit que l'amour entre un homme et une femme, c'est une bonne chose. C'est vrai. Mais il nous dit aussi que ça ne peut pas satisfaire notre cœur de manière ultime. C'est vrai aussi. Il nous dit qu'il faut profiter de la jeunesse pour vivre ce qu'il y a de plus fort à vivre. C'est vrai. Mais il nous rappelle que la jeunesse, elle est éphémère. C'est vrai aussi. Et ainsi de suite. Et quand Coëlette évoque le vieillissement dans ce passage, il parle d'une réalité de la vie humaine qui est difficile à vivre. Et il n'a pas de fausse pudeur à cet égard. Il en parle directement. Mais la deuxième partie du chapitre évoque de façon positive l'expérience qu'on acquiert avec l'âge. Coëlette, nous dit le verset 9, a appris la connaissance au peuple. Il a pesé, examiné à fond et mis en ordre un grand nombre de maximes. Et au début du livre, on voit qu'il se présente comme quelqu'un qui a un peu tout vécu et tout vu. Et c'est ça aussi qui lui permet d'écrire ses paroles. Et en lisant ces versets, on prend conscience que tout n'a pas été si futile dans la vie de l'Ecclésiaste. À force d'observer ce qui se vit dans le monde, à force de considérer les joies, mais aussi les peines de la vie, à force de réfléchir à ce qui est futile et éphémère, mais aussi de réfléchir à Dieu qui est éternel, eh bien, il a appris la sagesse, il a pu la transmettre à d'autres. Et le verset 10 nous dit que ces paroles sont des paroles de vérité. Et alors que dans tout le livre, Coëlette a insisté sur le caractère léger, et éphémère de tant de choses. Eh bien ici, on apprend que la sagesse, elle est ferme. Si on regarde le verset 11, les paroles des sages sont comme des aiguillons, les auteurs de recueil sont comme des clous plantés. Une image peut-être un peu étonnante, mais qui semble bien nous dire que la sagesse, elle est ferme, elle est durable, comme un clou qu'on plante, elle reste là. Et ce verset conclut avec une phrase un peu mystérieuse, c'est le don d'un seul berger. Et ce berger, sans aucun doute, l'image est utilisée tellement souvent dans la Bible, c'est Dieu, le Créateur, celui qui est à l'origine même de la sagesse. Et parce que la sagesse véritable, elle vient de Dieu, eh bien elle n'est pas futile, elle n'est pas éphémère, elle a du poids, elle change véritablement la vie. Et cette sagesse, il faut la saisir maintenant. Et plus on attend, plus on s'égare. Plus on ignore Dieu, plus on se dirige vers la futilité ultime qui est la mort, sans aucune raison d'espérer. L'Ecclésiaste donc nous invite à saisir la sagesse. Et ce n'est pas une sagesse faite de clichés pieux. Ce n'est pas une sagesse qui dit toujours « Alléluia, tout va bien ». C'est plutôt une lucidité, au contraire, sur la vie présente. Une résolution à rechercher les bonnes choses et à apprécier les bonnes choses que Dieu a créées pour nous et à lui faire confiance pour toutes ces choses qui nous échappent. Et bien sûr, cette sagesse-là, ce n'est pas seulement les jeunes qui sont appelés à la saisir ou à la saisir encore plus, mais tous. D'ailleurs, il me semble qu'il y a là encore quelque chose à retenir pour les moins jeunes parmi nous. Un avantage d'avoir un âge plus avancé, c'est la lucidité. On a beaucoup vu, beaucoup vécu et on est peut-être plus facilement prêt à accepter la complexité de la vie, les dissonances de la vie, les mystères, les choses qui ne rentrent pas facilement dans les cases qu'on pensait avoir établies. On a souvent connu plus de peine, mais aussi plus de joie. On a connu la vie dans ce qu'elle a de lumineux, mais aussi dans ce qu'elle a de sombre. Et si vous êtes chrétien, vous avez appris dans tout cela à faire confiance à Dieu, malgré toutes les choses qui vous échappent. Et il y a là un héritage précieux à transmettre aux jeunes qui vous entourent, qui ont besoin de saisir cette sagesse, non pas plus tard, mais maintenant. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, ne vous dites pas « Ah ben, ils verront bien plus tard, de toute façon », mais plutôt, pour les jeunes qui sont dans votre vie, je vais lui dire dès maintenant ce qui me semble essentiel. Dans une culture de la fuite en avant permanente, où on se délecte à détruire les repères les plus essentiels, plus que jamais les jeunes ont besoin de savoir ce que les aînés, c'est relatif, hein, on peut se considérer aîné assez jeune aussi. Plus que jamais, les jeunes ont besoin de savoir ce que les aînés ont appris de la vie. Et plus que jamais, ils ont besoin de revenir à l'essentiel. Et pour l'Ecclésiaste, on le voit, l'essentiel, c'est Dieu. Un Dieu qui seul n'est pas prisonnier de la mort, de la futilité, de la déception, de l'éphémère. Crains Dieu et observe ses commandements, verset 13. Et il poursuit ensuite, c'est là tout l'humain. Autrement dit, c'est là tout ce qui fait la vie humaine. C'est là l'essentiel. Quand on a constaté que la vie est faite de joie, mais aussi de peine, quand on a pleinement pris conscience qu'on n'a pas prise tellement sur le passé, ni sur l'avenir, ou de façon très limitée en tout cas, et que même le présent nous échappe souvent, qu'est-ce qu'il reste dans tout ça? Et l'Ecclésiaste nous dit, il reste Dieu. Il reste un Dieu qui est notre créateur. Un Dieu qui est la source de la joie et de tout ce qui est bon. Un Dieu qui échappe à la futilité et à la mort. L'Ecclésiaste n'en savait sans doute pas beaucoup plus que cela sur Dieu et ses projets. Nous avons le grand privilège, nous, de savoir que ce Dieu qui échappe à la futilité, il est venu à notre rencontre en la personne de Jésus-Christ. Il est venu non seulement pour nous réconcilier avec lui, mais aussi pour vaincre la mort et la futilité. Et c'est ce que nous dit à bien des reprises le Nouveau Testament, dans un texte où il vient de parler de la résurrection de Jésus et aussi de la résurrection finale que nous attendons à la suite de Jésus-Christ, à la fin de l'histoire. L'apôtre Paul écrit ceci dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 54. « Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors se sera accomplie la parole qui est écrite. » La mort a été engloutie dans la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est la conclusion que l'apôtre Paul va tirer de cette proclamation de la résurrection de Jésus, la victoire de la vie sur la mort. la victoire de l'impérissable sur le périssable. Et voici ce qu'il en conclut. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Notre condition présente, elle reste marquée par une certaine futilité que nous vivons, même pour tous ceux d'entre nous qui sont chrétiens, nous vivons encore cette futilité à bien des égards. Nous voyons notre travail souvent être insatisfaisant, nos relations être insatisfaisantes. Nous voyons beaucoup de choses autour de nous qui ne durent pas. Nous constatons que finalement les choses sont parfois assez cycliques. On a l'impression de revenir un peu toujours aux mêmes difficultés, de revenir un peu toujours aux mêmes défis. On constate cette futilité. Mais Dieu nous invite à saisir par la foi, dès maintenant, une nouvelle réalité où tout a du poids, tout a du sens, tout est pour toujours.